Bonsoir. Environ 100 000 Congolais sont expulsés chaque année de l'Angola sans aucun respect des droits de l'homme. Déclaration la semaine passée du sous-secrétaire général des Nations Unies aux droits de l'homme en visite en RDC. Comment analyser cette déclaration et que faut-il pour que les expulsions se fassent dans le respect des droits humains? Pour en parler, nous recevons André-Alain Atundu, au cadre de la majorité présidentielle, le président du parti politique Convention pour la démocratie et la République CDR. Il est ancien ambassadeur au Rwanda et ancien diplomate à Paris. Monsieur Atundu, bonsoir.
Bonsoir.
Albert Fabrice Puella, député national de l'opposition, leader du parti pour la renaissance du Congo Reco. Il est élu de Matadioba Congo et rapporteur du groupe parlementaire UDPS-FAC à l'Assemblée nationale. Honorable Puella, bonsoir.
Bonsoir.
Antonio Mangia, coordinateur du programme de protection de l'ONG dénommé Comité international pour le développement du peuple CIS qui en cible. C'est une ONG internationale qui a comme vocation notamment la protection humanitaire. Monsieur Mangia, bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour vos réactions. Chantal Faïda depuis demain, lorsqu'il vous le dit, dans presque toutes les provinces, il existe des citoyens censés contraints à la fuite et à l'errance. Pourquoi attendre que les institutions internationales dénoncent des faits ignobles dans notre État pour se pencher sur la question? Nous recevons ce que nous concevons ce que nous percevons. La RDC est-elle sous tutelle ou sont nos dirigeants? Chef d'État Vosan Bernard Nibeko de Mbandaka à l'Équateur, l'ONU doit prendre ses responsabilités en sanctionnant l'Angola pour violation répétée de la loi internationale sur la protection des immigrants illégaux. Que chaque État membre de l'ONU et de l'Union africaine puisse respecter les conventions internationales en la matière, sinon chaque État va se faire justice et il y a risque de conflits armés. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 58 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Environ 100 000 Congolais sont expulsés chaque année de l'Angola sans aucun respect des droits de l'homme. Déclaration faite la semaine dernière au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa par le sous-secrétaire général des Nations Unies aux droits de l'homme. Ivan Simonovic rappelle aux autorités angolaises la nécessité de respecter les droits des immigrants illégaux vivant sur leur territoire. Le diplomate onusien a été à Kamako vers la frontière entre la RDC et l'Angola où vivent dans des conditions très difficiles la plupart de ces Congolais refoulés du pays d'Eduardo dos Santos. Ivan Simonovic au micro de François Kadima.
I said that international law has
fait des violations aux droits de l'homme qui ont été perpétrées au niveau de la frontière avec l'Angola.
La loi internationale portant en matière de protection des immigrants illégaux, cette loi a été violée. Mais cette affaire relève aussi des relations bilatérales entre l'Angola et la RDC qui sont libres de résoudre ce genre de problèmes. Donc la protection des immigrants, leur droit n'est pas respecté et relève aussi au bureau de droits de l'homme, de voir dans quelle mesure collaborer avec les États qui sont souverains pour arriver à résoudre ce problème. Et cette situation est une situation alarmante.
It is impossible to be complete.
Notez que le sous-secrétaire général des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a séjourné pendant 9 jours en RDC, s'est également rendu à Bukavu, Shabunda et Kananga au sujet de la situation dans le Kivu. Ivan Simonovic a souligné que les autorités congolaises doivent faciliter le retour de près de 40 000 déplacés après les dernières défections au sein des FRDC. Monsieur l'ambassadeur Atundu, comment vous analysez cette situation?
La situation en Angola ou
la situation des refoulés de l'Angola, c'est une situation qui a perduré au point qu'on se demande est-ce que c'est parce que c'est devenu une habitude, qu'on s'est accommodé ou c'est parce que ça n'intéresse pas les autorités?
Non, d'abord, cette situation a plusieurs volets. Il y a le volet légal, c'est-à-dire des gens qui ont enfreint la légalité dans un pays donné, probablement dans les deux, puisque les lois d'immigration font appel aux deux, mais il y a l'aspect de relations diplomatiques aussi, c'est-à-dire la pratique ou la règle de chaque pays d'entretenir un meilleur rapport compte tenu de problèmes qu'il y a ou qu'il n'y en a pas. Il y a l'aspect humain, c'est-à-dire le sentiment de compassion, et il y a l'aspect humanitaire. Ici, je crois que c'est surtout l'aspect humanitaire, c'est-à-dire, en réalité, l'assistance à des personnes en détresse. Et ici, la détresse est grande, parce qu'elle n'est pas seulement physique, matérielle, mais elle est aussi morale. Parce qu'on entend parler de femmes violées, les traumatismes que cela crée, parce qu'on entend les traitements infligés à certains qui les ont traumatisés, donc il y a certainement un problème humanitaire. L'humanitaire, ça signifie l'urgence. Donc il y a urgence que les deux républiques puissent, à travers les instruments adéquats, c'est-à-dire les services de sécurité, les services de renseignement, la police de frontières, les gouverneurs voisins, et enfin les affaires étrangères, sinon le chef d'État, il est urgent qu'il puisse se pencher sur ce cas, qui n'honore ni le Congo, ni l'Angola, encore moins l'Afrique et l'Est du Mali.
Deux auditeurs pour vous, monsieur l'ambassadeur à Tondou, Pitou Chimanga de Kisangani en province orientale. Les Congolais sont expulsés avec violence parce que les relations diplomatiques RDC-Angola ne sont pas tellement fortes. Faustin Mumbere de Kiwanja en Nord Kivu, lui un peu plus sévère, il dit cette forme d'expulsion de nos compatriotes traduit une insulte à la diplomatie congolaise, monsieur l'ambassadeur.
D'abord, rien n'explique la violence, parce que vous savez, aussi coupable que soit un homme, il a droit à la dignité. Parce que la violence touche à la dignité. Et ça n'a rien à voir avec les relations diplomatiques. Parce qu'il s'agit d'un droit qui dépasse un État, qui dépasse un individu. C'est une valeur universelle que nous tous, pour laquelle nous nous battons tous, n'est-ce pas ? Et donc, il y a prépondérant sur la loi nationale. Alors, pourquoi les Congolais sont-ils traités de cette façon-là? Je crois qu'il faut voir par cas, il doit y avoir une série de raisons, hein, n'est-ce pas? Soit le fait que l'Angola ne parvient pas à maîtriser ses forces qui sont chargées d'assurer le transfert ou l'expulsion des fautifs, soit que le Congo n'est pas assez attentif, n'est-ce pas, au sort des siens qui viennent. Parce que ce n'est pas un mouvement d'un jour, c'est un mouvement régulier, on sent venir les choses. Donc le Congo devait prendre des dispositions pour les accueillir. Alors peut-être que le nombre dépasse aussi les infrastructures actuelles. Donc l'insuffisance de l'infrastructure, l'inadéquation des encadreurs, eh bien, tout cela peut justifier cette violence. Et puis, bon, les dérapages, vous savez, les criminels, il y en a partout. Hein, et peut-être c'est l'effet de quelques criminels. Malheureusement, les faits infractionnels ont plus de répercussions que les bonnes choses.
Alors, je prendrai votre deuxième assertion du côté de l'Angola. Il nous est difficile de poser ces questions-là parce qu'il est difficile d'avoir des réponses, mais du moins dans l'assertion où le Congo ne serait pas assez attentif, il y a Kali de Kiwanja en Nord Kivu qui dit « L'Angola profite de l'indifférence du gouvernement congolais tout en sachant qu'il n'y aura pas de réaction. » Parce qu'on ne sent pas de réaction officielle. Ça, c'est une situation qui a vraiment duré pendant beaucoup de temps, non, malheureusement.
Quand parler d'indifférence, ce n'est pas traduit la réalité. Vous savez que régulièrement, le gouvernement réagit, et même régulièrement, le gouverneur de nos provinces frontalières se rencontre pour essayer d'harmoniser un peu la situation.
Mais on a l'impression que ça n'a pas produit de résultat.
Non, les choses ne sont pas faciles pour la simple raison que pour la plupart, vous avez dit, ce sont des immigrés clandestins. Et donc des gens qui ont peur de la loi et chez nous et chez eux. Alors, cette situation est une situation précaire, n'est-ce pas, pour eux, qui fait qu'ils sont prêts à accepter n'importe quoi du côté de l'Angola, comme du côté de chez nous, pourvu qu'ils aillent là où ils veulent aller. Alors, c'est là qui occasionne aussi les dérapages, parce que c'est la tolérance due à l'aspect d'illégalité. Donc, en quelque sorte, bien sûr, les responsabilités de notre État. Nous devons les assumer, il y a les services d'immigration, il y a les services de police, la police de frontières, etc. Mais il y a aussi une certaine complicité suicidaire, n'est-ce pas, de ces gens-là. Vous savez que là, on vous traite mal, mais vous y allez quand même parce que vous pensez que c'est l'Eldorado. Que souvent on n'a pas.
Alors, je donne la parole tout à l'heure à l'honorable Puella, mais vous répondez à l'ambassadeur Atundu à cette préoccupation qui nous vient de Kisangani en province orientale.
Bernadette Koulibri, de l'Université de Kisangani, je voulais savoir si la RDC ne parvient convenablement pas à protéger son population contre les armées étrangères, qui fait allusion à la LRA, FDLR, serait-elle capable de défendre les expatriés à notre expulsion sauvage des Congolais de l'Angola, doit interpeller la conscience du gouvernement massacre si réellement l'État congolais est un État politiquement et juridiquement responsable.
Réaction, M. l'ambassadeur.
Bon, j'en profite d'abord pour saluer tous les auditeurs de la province orientale, particulièrement les étudiants d'université. La sécurité des frontières de nos populations, c'est une préoccupation commune, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, pour combattre la MRA, il y a les forces américaines, il y a les forces ougandaises et nos forces armées. Donc, ça signifie que c'est un problème qui nous dépasse, probablement à cause des connexions au niveau des pays voisins, notamment l'Ouganda aujourd'hui.
Mais je pense qu'il voudrait plus faire, il voudrait plus épingler cet attentisme où le gouvernement qui n'est pas, qui semble ne pas être très impliqué dans cette histoire.
Non, le gouvernement est impliqué. Seulement, pas toujours de façon spectaculaire. Parce que celui qui doit s'occuper, ou les services qui doivent s'occuper de ce genre de problème, ce sont les services des provinces frontalières. N'est-ce pas? Et en plus, il y a les services d'immigration, il y a toutes les séries de responsables. Donc, c'est d'abord un problème technique. Et puis, pour le résoudre, il faut qu'il y ait des rencontres entre services. Services d'immigration, services de sécurité, parce que ceci peut être aussi un casus belli.
Honorable Fabrice Puella, quelle est votre analyse? Vous avez suivi l'ambassadeur Atundu.
Merci beaucoup. Je commencerai par saluer les auditeurs, qui sont très, très nombreux, qui suivent Radio Capi en République démocratique du Congo comme en dehors. Je salue aussi Monsieur André Alain Atundu, ambassadeur de son État, ainsi que Monsieur Antonio Mangia, qui est avec nous pour débattre de cette question. Lorsque vous avez lu l'introduction directement, la première question, moi, qui m'est venue à l'esprit, fallait-il attendre d'abord ou vraiment c'est le secrétaire général des Nations Unies qui doit interpeller pour nous les autorités congolaises? Cette situation de refoulement massif de nos compatriotes, c'est une situation que nous vivons depuis plusieurs années déjà. Plusieurs de nos compatriotes sont chassés de la manière la plus violente qui soit, de la manière la plus inadmissible, que ce soit au niveau du Bas-Congo, comme au niveau du Kasaï, comme du Bandundu aussi d'ailleurs, sans que cela interpelle les autorités du pays. Je suis même en train de me demander, par moment je me pose la question, chaque fois que je suis le mercredi, le point de presse hebdomadaire de la MONUSCO, je me demande, est-ce que la MONUSCO ne fait pas ce qu'auraient dû faire les autorités nationales? La MONUSCO nous donne chaque semaine, de manière hebdomadaire, pour me répéter, la situation des droits de l'homme, la situation des ruptures de la paix à travers la République. Ce qu'auraient dû faire les autorités. Nous voyons, nous avons un ministre de l'information sortant et entrant qui, avec beaucoup de zèle, nous communique lorsqu'il y a des situations qui blessent un peu, et on voit avec quel zèle il le fait, mais lorsqu'il y a des situations comme celle-là, je pense qu'un pouvoir responsable a pour préoccupation la protection des personnes et des biens des personnes, cela s'entend, de ces ressortissants. Mais lorsque nous avons nos compatriotes qui souffrent, qu'ils soient partis de manière illégale ou régulière dans ces pays voisins ou même ailleurs, la première responsabilité, un État n'abandonne pas ses ressortissants. Ça, c'est un principe d'abord dans un pouvoir qui se respecte. Nous avons pour la toute première fois, en tout cas, éprouvé de la fierté d'être Congolais lorsque nous avons vu, malheureusement, c'était pour des visées électoralistes, malheureusement, lorsque on a volé au secours des Congolais refoulés de la Libye. Enfin, en difficulté, ils n'étaient pas refoulés, mais qui fouillaient les atrocités qui s'est passées en Libye. On a vu comment on a mobilisé la presse officielle pour montrer le gouvernement qui accueille nos compatriotes. Mais après, ils sont abandonnés. On a parlé d'une cité de l'espoir. Ces gens meurent de faim, ces gens souffrent. Donc, je pense qu'il est important que le Congo donne des raisons à ses ressources, sans être fier d'appartenir à une nation, avec la prise en charge de nos compatriotes, où qu'ils soient. Parce que ce qui se passe au Congo, ce qui se passe avec les ressortissants, que ce soit à Lupo, que ce soit à Mbakako, si je parle du Bas-Congo, là, c'est que je maîtrise bien, je suis élu de la province du Bas-Congo, est tout simplement inadmissible. Cela veut dire que les autorités angolaises ne respectent pas, ou même constatent qu'il y a presque une situation d'absence d'autorité au niveau de la République démocratique du Congo. Parce que lorsqu'on constate des choses comme ça, qu'il y a des ressortissants d'un quelconque État qui sont en situation irrégulière, je l'ai dit, sous le contrôle de monsieur l'ambassadeur, en principe, on invite les pays dont on dit qu'ils sont ressortissants pour les identifier d'abord, parce qu'il y a même des non-Congolais qu'on refoule, mais chez nous, on ne respecte pas. Oui.
Mais honorable Pouela, l'ambassadeur Atundu l'a également dit, il y a un moment où le gouverneur du Bas-Congo, par exemple, a rencontré celui de la province voisine d'Angola, il y avait tout un balai diplomatique, mais qui apparemment n'a pas semblé porter des fruits,
oui, dans votre avis. Dans le cadre de la coopération décentralisée, mais les relations internationales, c'est même parmi les domaines de souveraineté, ça relève du pouvoir central. Avons-nous suivi les ministres des Affaires étrangères sortant faire rapport sur les expulsions massives que nous avons, que ce soit? Mais pourquoi je vais si loin? Ici, à côté, à Brazzaville, lorsqu'il y a eu les incidents d'Empila, vous avez suivi qu'il y a eu plusieurs Congolais qui ont fui ces incidents qui s'est passé. Vous savez où ils sont? N'est-ce pas qu'ils sont en train de camper devant l'hôtel des villes. On vit aussi de tout le monde tout à l'heure. Je suis passé par là. Des Congolais dans leur propre pays, dans une situation de réfugiés, sans structure d'accueil, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils sont clochardisés. C'est tout simplement malheureux, des situations comme ça. Donc, il est temps que nous ayons des autorités responsables qui puissent réaliser que si nous sommes, nous ne sommes que des locataires au pouvoir et que notre chef c'est le peuple et que nous devons prendre soin de ces peuples, qu'on aime sa tête ou pas, que ce monsieur ait voté pour moi ou pas, il est Congolais, nous devons le protéger, qu'il soit en Papouasie, qu'il soit en Guyane ou qu'il soit en Biélorussie là-bas, il est Congolais, nous devons le protéger.
Honorable, avant que je ne donne la parole à Antonio Manja, très brièvement, vous étiez député à la législature passée, également cette fois-ci, mais on a senti aussi une certaine passivité au niveau de l'Assemblée nationale à ce sujet.
Merci beaucoup. La question avait été soulevée sous forme d'une motion au niveau de l'Assemblée
qui est restée dans les tiroirs, malgré
tout. C'est resté dans les tiroirs. Je me rappelle bien, c'est l'un de mes collègues qui avait soulevé. Mais vous savez, l'Assemblée nationale est dirigée par une majorité que vous savez, cette majorité, par la manière que vous connaissez, nous n'allons pas, c'est pas le sujet à l'ordre du jour qui est revenu, mais il est important que le pouvoir actuel de Kinshasa donne des raisons à ses ressortissants, aux Congolais, de respecter, d'avoir de l'espoir que nous avons un pays. J'aimerais juste citer. Voyez-vous, par exemple, lorsqu'il se passe des situations comme ça, un gouvernement responsable, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un ministère pour aller discuter des questions, ou même il y a des représailles. Parce que nous avons plusieurs Angolais en séjour, même irréguliers au Congo. Il y a des représailles qu'on doit observer, qu'on doit appliquer, pour que de l'autre côté, on respecte, on sente qu'il y a aussi des autorités de l'autre côté.
Antonio Manja, vous êtes coordinateur du programme de protection de l'ONG dénommé Comité international pour le développement du peuple, CISP. Une ONG internationale qui a comme vocation notamment la protection humanitaire. C'est à ce titre-là que vous êtes dans cette émission. Dans quelles conditions viennent se refouler d'Angola?
Alors, nous, on travaille avec la DGM, les autorités congolaises, pour identifier les conditions dont les suspects sont de l'Angola. En fait, je voudrais aussi remercier toutes les autorités locales qui collaborent très rapidement avec nous. En fait, je veux dire que c'est une très bonne collaboration. Nous, on a recensé des milliers de Congolais qui sortent dans des conditions très dures. Je peux citer même des chiffres. Il y a entre le mois d'avril 2011 et le mois d'avril 2012, nous ont été reportés plus de 19 000 personnes qui ont reporté avoir été abusées physiquement. Et il y a ce qui fait le 25% des effets que nous avons recensés depuis l'année passée. Et on a reporté ainsi 3872 femmes qui allègent avoir subi des violences sexuelles de différents genres en Angola. Tous ces problèmes sont aggravés par le manque de moyens qui sont disponibles aux frontières dans les territoires congolais, parce que un tel nombre de malades, de personnes ayant subi des violations graves, dépasse les capacités de réponse de l'État congolais et aussi des organisations humanitaires qui sont en place.
Alors, je vous redonne la parole tout à l'heure, mais pendant que nous traitons ce sujet, il y a une information qui vient de tomber. 227 Congolais ont été expulsés de la province angolaise de Cabinda le week-end dernier par le poste frontalier de Yema, à 190 km à l'est de Matadi. Parmi ces expulsés, on compte 66 femmes et 25 enfants, selon plusieurs sources concordantes. La police de migration angolaise reproche aux Congolais un séjour irrégulier sur leur territoire. La société civile de Moanda déplore, quant à elle, le silence des autorités provinciales au sujet de ce refoulement massif et le manque de structures d'accueil pour ces expulsés. Willy Loma, président de la société civile de Moanda, a indiqué que ces refoulés rentrent toujours dépouillés de leurs biens. Mais dites-nous, Antonio Manja, comment ça se passe quand ces refoulés, quand ils sont entre vos mains, quelle est l'assistance qu'ils reçoivent, sous quelle forme?
Alors, notre assistance, qui est assez limitée par rapport aux besoins, on a organisé certains centres d'accueil en appui des structures communautaires congolaises pour les assister à accueillir les expulsés et on fournit un appui alimentaire et assistance psychosociale. On essaye dans les cas les plus graves de les accompagner vers leur maison d'origine pour qu'ils puissent être pris en charge par les familles originaires.
Alors, on comprend, vous l'avez dit, qu'il y a un sérieux problème de moyens. Près de 19 000 abusés physiquement pendant presque une période d'une année, si je ne me trompe pas, à suivre les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure. Mais ces gens, l'ambassadeur à Toundou a parlé de traumatisme. Ils sont traumatisés. Comment ça se passe pour régler ce problème?
Pour régler ce problème, je pense qu'il faudra beaucoup de temps et beaucoup d'avancement de la part de l'État angolais, de l'Angola et aussi peut-être de la part du Congo. Le problème au Congo, il y a énormément de personnes qui rêvent, comme il a dit monsieur l'ambassadeur, l'Eldorado en Angola. Je pense que parmi les problèmes plus sérieux, ce sont les conditions en Angola. Dans certaines provinces, comme l'Unda Nord, il y a des lois qui permettent une grande discrétion aux forces de sécurité dans le traitement de tout le monde, pas seulement des Congolais, mais aussi des Angolais. Et il y a presque toute l'entièreté de la province de l'Unda Nord est soumise à des lois qui qualifient la zone comme une zone pour exploitation de diamants et qui détourne et qui enlève tous les droits, beaucoup de droits, soit aux Angolais, soit aux Congolais. En fait, ça, c'est pas seulement un problème des Congolais, mais ça, c'est un problème dans certaines provinces, surtout à l'Unda Nord, aussi pour les Angolais.
Alors, avez-vous par exemple des psychiatres pour les femmes? 3872 femmes ayant déclaré avoir subi des violences sexuelles. comment ces femmes sont prises en charge dès qu'elles arrivent, quittent le territoire angolais et atterrissent en RDC?
Alors, il y a des sérieux problèmes par rapport à ça, parce que souvent, vous savez, une femme qui a subi un viol a besoin d'être prise en charge avant de se prendre 10 heures pour que les conséquences comme le sida puissent être évitées. Ça, c'est impossible parce que souvent les Congolais sont détenus en prison pendant beaucoup plus de 72 heures, ce qui empêche une prise en charge médicale correcte. On a formé plusieurs agents qui assistent les femmes dans l'assistance psychosociale. On va travailler bientôt avec des psychologues formés. C'est assez difficile parce que ces femmes ne sont pas dans leur milieu, elles veulent rentrer dans sa maison. Donc, c'est difficile de prendre en charge pendant un certain temps.
Alors, vous travaillez en partenariat avec le gouvernement congolais. À quel niveau, à combien peut-on estimer son appui ou sa participation?
Alors, sa participation, c'est énorme, c'est un peu difficile à l'estimer, surtout avec la DGM, la collaboration excellente, parce qu'elle nous permet d'identifier immédiatement les expulsions qui sont menées, et nous, on part pour assister les gens. Il faut imaginer, il y a presque 60 postes que nous, on contrôle. Pour être là-bas, il y a la DGM qui nous appuie pour trouver les expulsions immédiatement. Et aussi d'autres services. Malheureusement, les moyens économiques, surtout par rapport à l'aspect sanitaire de l'État congolais dans ces zones, sont très faibles.
Alors, vous les gardez pendant combien de temps en attendant de retrouver leur famille ou de les conduire dans une famille d'accueil, par exemple?
Et normalement, ça peut être environ, nous, on a comme estimation générale 3 jours, 3 à 5 jours. Mais c'est assez difficile de donner une estimation générale parce qu'on essaie de suivre les cas par cas.
Donc en général, on retient que la situation est très, très difficile à gérer.
Oui, absolument très difficile.
Voilà, tout à l'heure, l'honorable Fabrice Pouilla faisait allusion au sinistre de Brazzaville. Notez que plus d'une dizaine de familles avec 3 enfants passent la nuit à la Belle Étoile en dessous des arbres au niveau de l'hôtel de ville ici à Kinshasa. Il s'agit de près de 30 Congolais de la RDC victimes des explosions du 4 mars dernier au quartier Mpila à Brazzaville. Cette personne qui dénonce une discrimination dans le traitement entre les Congolais de Brazzaville et les autres résidents sinistrés de ces explosions se sont révolus de retourner chez eux où ils se disent abandonnés à leur triste sort. Michel Kikundangoy les a rencontrés, écoutez l'un d'entre eux.
Nous sommes tristes de ce qui se passe dans des sites à Brazzaville. Nous vivons une discrimination manifeste, des expulsions intempestives. Ici à Kinshasa, nous sommes 11 familles. Depuis le 4 mai que nous sommes arrivés au but, on a fait 4 jours au but. Nous sommes là abandonnés. Nos enfants vivent, nous sommes tous des mendiants. On dort dehors. Nous sommes arrivés à l'hôtel de ville depuis lundi soir. Ici à l'hôtel de ville, nous on dort dehors. Nous sommes ici en dessous des arbres. Nous avons supplié aux autorités de nous garder parce que bon, malgré ce notre pays, mais on a vécu longtemps à l'étranger, on ne parvient plus à se retrouver. Là où nous sommes là, nous tous nous sommes malades. Nous sommes venus demander aux autorités de nous aider.
Antonio Mangia a le temps de donner juste après la parole à l'ambassadeur André Atundu. Dans ce genre de situation, votre ONG peut-elle agir ou vous n'intervenez qu'aux frontières?
Nous, on intervient aux frontières, on intervient même ici à Kinshasa par rapport au choléra. Mais dans une telle situation, bon, on a. Ça peut arriver qu'on peut intervenir, mais pour le temps, on aurait un problème de fond.
Voilà, donc en passant, vous pourrez y réfléchir.
Oui, bien sûr. Et je voudrais aussi saluer, je n'ai pas fait saluer mes auditeurs, mais surtout monsieur l'ambassadeur Atundu et monsieur l'honorable Pouilla. Merci beaucoup.
Voilà, monsieur l'ambassadeur, vous avez évoqué tout à l'heure un problème de structure d'accueil. Et nous venons de voir un exemple, une illustration avec les sinistrés de Brazzaville qui sont rentrés. C'est assez déplorable, pour le dire.
Ce qui est d'abord à déplorer, c'est que les Congolais de Kinshasa sont victimes de discrimination. Vous vous souvenez que le gouvernement, dans la bouche du président Sassou, avait promis à peu près 6 000 dollars par chaque famille. Or, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas pour les Congolais. Je crois que ça, c'est à déplorer, et c'est une des conséquences, n'est-ce pas, de cette discrimination. Mais, Monsieur Mandia, je profite pour un salut avec son nom tout à fait congolais, il a épinglé, après l'avoir écouté, on peut maintenant identifier, n'est-ce pas, les causes, ou bien faire une certaine radioscopie de cette situation. C'est d'abord, un, c'est le déficit de communication. Parce que tout ce que M. Mandia a dit, il a loué les efforts des autorités congolaises, mais l'opinion ne le sait pas.
À travers la DGM,
voilà, l'opinion ne le sait pas. Or, l'apport des autorités est important. Deuxièmement, les structures sont insuffisantes et les moyens budgétaires également manquent. Donc, ceci limite l'efficacité et la bonne volonté et même la détermination et de l'ONG et du gouvernement. Bon, en plus, la solidarité nationale est défaillante, surtout ici à Brazzaville, à Kinshasa. Est-ce qu'il est normal que des Congolais, je crois, dans 15 familles, dorment à la Belle Étoile, à l'hôtel de ville, alors qu'on pourrait les éparpiller à travers les communes? Nous avons 24 communes, on peut mettre une famille par commune, ils trouveraient de quoi c'est logique. Et donc, démontre la nécessité d'une plus grande synergie d'action. Il faut communiquer, parce que quelqu'un dit gouverner, c'est pas seulement prévoir, mais c'est aussi communiquer, pour rassurer nos compatriotes qui ne sont pas abandonnés par le gouvernement. Je crois que nos compatriotes ne sont pas abandonnés par le gouvernement, mais c'est le gouvernement qui est trahi par l'exiguïté du budget, l'absence de moyens, mais la bonne volonté est là et la détermination.
Alors, nous allons directement aborder la deuxième partie de cette émission. Que faut-il pour que les expulsions se fassent dans le respect des droits humains? Monsieur l'ambassadeur Atundu, il y a cette proposition qui nous vient d'Ariwara, de cet auditeur en écoute.
Joseph Koutoua Draco, d'Ariwara, province orientale. Nous sommes fatigués de parler de l'exclusion d'Angola. Que la RDC saisisse la justice internationale afin de trouver une solution bilatérale.
On se souvient aussi que dans l'introduction, on a suivi le sous-secrétaire général des Nations Unies aux droits de l'homme, Ivan Simonovic, qui a parlé d'une situation bilatérale. Que faut-il changer dans cette démarche, M. l'ambassadeur, pour que ça puisse cette fois-ci porter des fruits?
Je crois qu'on pourrait convoquer une réunion spéciale de notre commission bilatérale pour examiner ce problème. Parce que, vu l'importance des gens, parce qu'il y a 100 000 personnes qui sont envoyées, parmi ces gens-là, il y a les rêveurs d'Eldorado, mais il y a aussi des victimes culturelles. Il y a des gens pour qui l'espace de vie est culturel, c'est l'Angola, c'est le Congo. Donc, il faudrait, dans le cadre des affaires étrangères, provoquer une session spéciale de la commission bilatérale avec l'Angola pour examiner et prendre ensemble ces dispositions. Deuxièmement, il faudrait quand même aussi la participation des immigrés clandestins. Beaucoup subissent ces situations-là inadmissibles parce qu'ils pensent qu'en dernière minute, on aura pitié d'eux et qu'ils auraient tort à se présenter aux autorités congolaises. Je crois que leur collaboration serait importante. Donc pour moi, cette commission, et puis que les clandestins congolais puissent s'assumer en se présentant aux autorités congolaises en Angola et ici aux frontières.
Merci Monsieur l'ambassadeur, je rappelle que vous êtes au cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République CDR, également ancien ambassadeur au Rwanda et ancien diplomate à Paris. Honorable Albert Fabrice Kouela, vous intervenez après cette réaction qui nous vient de Bukavu Sud-Kivu.
Maître Débat Bakilo, mon Christophe, dans la ville de Bukavu, au Sud-Kivu. Souvent, les Congolais partent en Angola par manque de travail, espérant de trouver mieux chez nos voisins. Car le Congo est presque invivable, surtout aux jeunes diplômés. Mais, à les expulsions, nos voisins doivent le faire en respectant les normes des droits humains. Au gouvernement congolais, de le protéger et en prenant des mesures qui répondent à ce que le Congo soit vivable.
Réaction, mon frère. Merci beaucoup. Effectivement, l'auditeur a touché vraiment le mal dans sa racine. Nous sommes au mois de mai, il y a pas plus de 16 jours que nous avons assisté au défilé devant la place du cinquantenaire et le président de l'intersyndicale nationale
à l'occasion de la fête du travail.
À l'occasion de la fête du travail, le 1er mai, bien sûr, il nous a dit qu'au Congo, nous avons 96% de chômeurs. C'est un record, c'est grave. Et c'est pourquoi lorsque le gouvernement est en train de présenter son programme d'action, nous avons martelé, nous avons insisté, parce que l'indice de performance de tout gouvernement à travers le monde, c'est au niveau de la création d'emplois. Le Premier ministre n'était pas capable de nous dire combien d'emplois il entendait créer par semestre, par an, pour qu'on puisse au moins le juger au finish. Et ça, c'est important. Il est plus que clair, il est important que les gouvernements congolais créent des conditions pour empêcher les Congolais d'aller chercher justement l'Eldorado ailleurs. Parce que nous n'avons que ce pays. On est roi que ce soit. Ce soit, c'est vrai, on peut avoir des problèmes, mais au moins, on ne va pas vous expliquer. Si vous avez des problèmes, vous pouvez répondre devant la justice, mais les traitements inhumains dont sont nos compatriotes, c'est vraiment à pleurer, quoi, lorsque nous suivons les témoignages. Et puis, il y a également la République démocratique du Congo vit dans une situation de non-État. Il est important que nous puissions nous assumer. Regardez, lorsque vous observez, que ce soit chez nos voisins de Congo-Brazzaville comme en Angola, comment se structure l'État? Il est important, l'ambassadeur l'a dit, je peux le répéter, il est pour, sur le plan diplomatique, qu'on puisse déployer une diplomatie offensive en convoquant par exemple la commission mixte paritaire. Nous avons beaucoup de problèmes avec l'Angola, des problèmes sécuritaires, des problèmes de défense, nous avons des problèmes de migration, comme on dit. Nous avons dans les Bas-Congo des endroits où vous faites juste un pas, vous êtes en Angola. Un autre pas, vous retournez, vous êtes... Donc, nous avons des liens historiques. Il est important qu'on les rappelle aux deux pays. Il y a des communautés qu'on ne peut pas départager. Nous sommes des Bakongo, par exemple. Mais le roi, hein, les descendants de Nimi Alukende, de Zingankoufu, ils se trouvent à Congo Diantoti, là. Ils se trouvent en Banza-Congo. Ils nous arrivent, nous, d'aller en visite en Banza-Congo. Plusieurs. Alors maintenant, vous allez dire que lorsque un Mukongo va de l'autre côté, vous allez lui dire que nous avons des autorités coutumières au niveau de notre pays, même au Kassai, qui ont décidé en Angola. Nous avons nos autorités coutumières au niveau de la République démocratique qui ont décidé au niveau de Congo-Brazza comme au Gabon. Donc nous sommes condamnés à vivre ensemble. Lorsque je parle de la situation des non-États, mais observez, lorsque vous dites, vous ne pouvez pas passer une journée sans voir un véhicule avec une plaque de l'Angola, Luanda ou bien Kabinda. Mais le contraire, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas voir une plaque. Là-bas, les autorités sont plus sévères. Nous voulons que nos autorités prennent les choses en main pour qu'il y ait une réelle autorité en République démocratique, pour qu'on nous respecte. Parce que certaines choses qu'on fait aux ressortissants congolais, mais c'est parce qu'ils constatent que de l'autre côté, il y a une situation de non-État.
Merci, honorable Pouéla, vous êtes député national de l'opposition et leader du parti pour la renaissance du Congo Réco, élu de Matadioba Congo et rapporteur du groupe parlementaire UDFS PAC à l'Assemblée nationale. Antonio Mandja, de votre point de vue, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces expulsions se fassent dans des conditions respectant les droits humains? Vous avez suivi l'ambassadeur à Tundu, l'honorable Kouela, qui ont proposé des réunions mixtes spéciales. L'Angola et la RDP partagent beaucoup de choses en commun. Nous sommes obligés de vivre ensemble, ont-ils dit. Quelle est votre proposition?
Merci pour la parole. D'abord, je voudrais revenir sur une proposition faite par l'honorable Kouela, que je souhaite que ne soit pas poursuivie de la terre après l'aille.
Réciprocité.
Oui, voilà, ça risquerait d'empirer les choses comme c'est passé dans les 2009. Et on ne doit pas se mettre au même niveau des gens qui commettent des abus. À part ça, c'est absolument vrai, une commission mixte pourrait pousser les choses. Les efforts doivent être faits surtout par l'Angola. des efforts qui peuvent être faits par le gouvernement congolais dans la lutte à la traite et au trafic, parce que ce n'est pas seulement des Congolais qui vont à Angola pour aider, même si c'est la majorité des cas. Et il y a aussi des victimes de traite, des femmes qui sont emmenées en Angola avec des fausses promesses, ou bien qui sont emmenées par force même pour être. Et ça, c'est fait par les Congolais. Donc, il y a aussi du travail à faire sur le territoire congolais. Il y a des problèmes aussi des politiques comme la fermeture des frontières dans la province du Kasaï et du Banundu du côté de l'Angola. Donc, l'Angola là-bas a fermé les frontières, c'est impossible d'entrer en Angola. Et une ouverture officielle, avoir des permis officiels pour pouvoir entrer là-bas pourrait peut-être faciliter les choses. Moi, je souhaite aussi que l'AFD, M. Simonovic, puisse poursuivre dans ses intentions et mener des enquêtes sur les violations des droits humains commises par les forces de sécurité en Angola. Et je voudrais, pardon, aussi un appui de la part des autorités nationales, des autorités locales, qui parfois se sentent abandonnées.
Alors, aussi, on a compris qu'il faudrait que le budget soit conséquent pour soutenir et renforcer les structures d'accueil.
Exactement, oui.
Voilà. Monsieur l'ambassadeur à Tundu, il nous reste pratiquement moins de 4 minutes pour terminer l'émission. Sam Atayaka de Kisangani en province orientale qui dit « Théoriquement, les deux États se déclarent être des amis. Or, dans tout ça, l'Angola tire plus de profit que la RDC. Je demande à notre Parlement de voir clair les accords entre ces deux États voisins, brièvement. »
Bon, ça, c'est l'appréciation de quelqu'un qui n'a pas toutes les données. Ce sont ceux-là qu'il n'y a que la commission mixte bilatérale qui ferait dire si le Congo a moins ou plus. Ça, d'abord. De deux, il faut savoir que le Congo est un Eldorado aussi pour les Angolais. C'est un Eldorado pour les Sénégalais. C'est un Eldorado pour tout le monde. Le problème qui se pose ici, c'est le traitement dégradant vis-à-vis des Guinéens. Et donc, comme l'a dit M. Major, puisque nous ne faisons pas ce qui est reproché aux Angolais, nous devons aller plus loin, nous ne pouvons plus les imiter. Nous devons traiter nos immigrés illégaux de façon digne, parce que, aussi immigrés illégaux soient-ils, ce sont des êtres humains. Donc, il faudrait les traiter avec dignité. Alors, peut-être trouver des formules, hein, vous savez, on peut dire, sans modifier le plus. Dire par exemple, pour les Congolais, un mois en Angola sans visa, un mois ici sans visa, ça ne changerait pas grand-chose. Donc il y a beaucoup de propositions concrètes alors lesquelles il faut réfléchir.
En guise de conclusion, juste un mot, monsieur l'ambassadeur.
Mais en guise de conclusion, ce pays est un pays de droit. C'est un État qui exerce l'autorité, mais ceci ne signifie pas que c'est un État qui n'a pas de problème. En France, les autorités ont difficile à maîtriser la banlieue, mais c'est quand même un État. Donc ici, nous sommes un État, et les statistiques sur le chômeur, on sait ce que cela vaut, parce que la saisie des données n'est qu'à peu près de 20%.
Honorable Kouila Yannès Olumbulumbu de Goma en Orkivu, qui dit en Orkivu, les autorités ont laissé les déplacés fuyant la guerre de Masisi traverser vers le Rwanda sans contrôle. Le gouvernement Matata Ponyo est appelé à surveiller de très près le mouvement des populations déplacées vers le Rwanda et l'Ouganda pour éviter ce qui se passe en Angola. En guise de conclusion.
Effectivement, en guise de conclusion, aujourd'hui, et nous l'avons appris, il y a des Congolais qui seront expulsés de la Grande-Bretagne. Et une équipe des autorités de la DGM et autres de la sécurité ont été dépêchées au niveau de la Grande-Bretagne pour identifier. Parce qu'il n'est pas forcément vrai que ces constructions être des Congolais sont effectivement des Congolais. Et puis, lorsqu'on explique, il faut respecter les normes les plus élémentaires de la bienveillance. Il y a ce qui est internationalement reconnu, comme on les mettait dans un avion pour les amener dans la capitale, par exemple, en respectant justement les normes humanitaires. Et puis, au niveau du pouvoir, les ministères des Affaires sociales, c'est cela aussi le rôle. Bientôt, nous allons voter le budget. Il faut qu'on nous présente un budget conséquent pour préparer les infrastructures d'accueil.
Antonio Manja pour clôturer, justement.
Ah, je remercie tout le monde et je souhaite que tous les efforts soient faits pour résoudre cette situation.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais est terminé pour ce soir. Retrouvez cette émission sur radiocapu.net ou, si vous le voulez, en rediffusion à 4h15 heure de Kinshasa. Au revoir.
I'm going to go to the next one.